Le devisement du monde de Marco Polo. Livre 2, chapitre 21. De la monnaie du Grand Khan. La monnaie du Grand Khan n'est ni d'or, ni d'argent, ni d'autre métal. On se sert pour l'affaire de l'écorce intérieure, le libère, de l'arbre qu'on appelle mûrier, qui est celui dont les feuilles sont mangées par les vers qui font la soie. Cette écorce, fine comme du papier, étant retirée, on la taille en morceaux de diverses grandeurs, sur lesquels on met la marque du prince, et qui ont diverses valeurs depuis la plus petite somme jusqu'à celle qui correspond à la plus grosse pièce d'or. L'empereur fait battre cette monnaie dans la ville de Kambalu, d'où elle se répand dans tout l'Empire. Et il est défendu, sous peine de la vie, d'en faire ou d'en exposer d'autres dans le commerce, par tous les royaumes et terres de son obéissance, et même de refuser celle-là. Il n'est pas permis non plus à personne, venant d'un autre royaume qui n'est pas sujet au Grand Khan, d'apporter d'autres monnaies dans l'Empire du Grand Khan. D'où il arrive que les marchands qui viennent souvent des pays éloignés à la ville de Kambalu apportent de l'or, de l'argent, des perles et des pierres précieuses qu'ils troquent contre cette monnaie impériale. Mais parce qu'elle n'a point cours en leur pays, quand ils veulent s'en retourner, ils en achètent des marchandises qu'ils emportent en leur pays. Le roi commande quelquefois à ceux qui restent à Kambalu qu'ils aient apporté leur or, leur argent et leurs pierres précieuses sans retardement entre les mains de ses officiers et en recevoir la juste valeur à la monnaie susdite. De là, il arrive que les marchands et les habitants n'y perdent rien et que par ce moyen, le roi tire tout l'or et se fait de grands trésors. L'empereur paye aussi en cette monnaie ses officiers et ses troupes. Et enfin, il en paye tout ce qu'il a besoin pour l'entretien de sa maison et de sa cour. De sorte qu'il a fait d'une chose de rien beaucoup d'argent et qu'on peut faire aussi beaucoup d'or et d'argent avec cette misérable monnaie. Ce qui fait qu'il n'y a point de roi au monde plus riche que le Grand Khan, car il amasse des trésors immenses d'or et d'argent sans dépenser rien pour cela. Chapitre 22. Des 12 gouverneurs des provinces et de leur office. Le Grand Khan a 12 barons à sa cour qui commandent en son nom à 34 provinces. Leur office est d'établir 2 recteurs dans chaque province pour avoir l'œil aux armées que le roi entretient dans les lieux de leur district et les pourvoir des choses nécessaires. Ils donnent avis au roi de tout ce qu'ils font, qui confirme tout cela par son autorité. Ils accordent beaucoup de grâces et de privilèges. C'est pourquoi ils sont fort considérés et pourquoi leur faveur est fort ambitionnée. Ils habitent dans la ville de Kambalu, un grand palais qui leur est destiné, où il y a plusieurs chambres pour eux et pour leurs officiers. Ils ont aussi des assesseurs et des notaires qui leur servent de conseil et qui ont le soin d'enregistrer leurs résolutions. Chapitre 23. Des courriers et des messagers du Grand Khan et des maisons qui leur sont destinées sur les routes. De la ville de Kambalu partent plusieurs grands chemins qui mènent dans les provinces voisines. Il y a sur chacun de ces chemins des châteaux ou hôtelleries avec de très beaux palais, à 25 milles de la ville de Kambalu, où les courriers du roi se reposent. Ces demeures s'appellent, en langue du pays, Janli, comme qui dirait logis des chevaux, car il y a toujours dans ces maisons-là 300 ou 400 chevaux du roi qui sont préparés pour les courriers de Sa Majesté. Et ainsi, de 25 milles à 25 milles, ils trouvent de pareilles hôtelleries jusqu'à l'extrémité de l'Empire. Et par toutes les routes, il y a bien 10 000 de ces hôtelleries sur tous les chemins de l'Empire, et le nombre des chevaux qui y sont entretenus pour le service des courriers monte au moins à 200 000. Dans les endroits inhabités, il y a aussi de ces sortes de cabarets, jusqu'à 30 et 40 milles, à la susdite distance les uns des autres. Les villes voisines sont obligées de fournir à la nourriture des chevaux et à l'entretien de ceux qui en ont soin. Les hôtelleries qui sont situées dans les déserts reçoivent leurs provisions de la cour du roi. De sorte donc que quand le roi veut être informé de quelque chose, fût-ce d'un bout de son empire à l'autre, il envoie des cavaliers qui portent son commandement et qui font en un jour des 200 et 300 milles de chemin et en peu de jours parcourent une grande partie de la terre. Ce qui se fait de la manière que voici. On envoie 2 hommes à cheval qui courent sans s'arrêter jusqu'à la première hôtellerie où, étant arrivés, ils laissent leurs chevaux fatigués et en prennent de frais et ensuite ils se rendent au second cabaret. C'est ainsi qu'ils en usent soit en allant ou en revenant. Et en très peu de temps, ils portent les ordres du roi à l'extrémité de l'Empire ou lui apportent des nouvelles des endroits les plus reculés. Entre ces hôtelleries, il y a encore des habitations éloignées de 3 à 4 milles les unes des autres, où il y a fort peu de maisons et où logent les coureurs à pied, lesquels portent une ceinture garnie de sonnettes. Ces coureurs sont toujours prêts, quand il vient des lettres du roi, de les porter avec une extrême vitesse à la première habitation. Et comme avant qu'ils arrivent, le son de leurs clochettes les annonce, d'autres qui sont destinés au même emploi se préparent à porter les lettres plus loin. De sorte que ces lettres passent d'habitation en habitation par plusieurs coureurs différents et vont ainsi jusqu'où elles doivent rester. Il arrive souvent que le roi apprend par là des nouvelles en 3 jours ou reçoit des fruits nouveaux d'un endroit éloigné de 10 journées de Kambalu. Or, tous ces coureurs sont exempts de tout tribut ou impôt et reçoivent outre cela une bonne récompense du roi. Chapitre 24. De la prévoyance de l'empereur pour les cas de cherté des vivres. Le grand khan a coutume d'envoyer tous les ans des messagers en diverses provinces de son empire pour s'informer si les sauterelles et les insectes n'ont point causé de dommages au blé ou, enfin, s'il n'est point arrivé quelque obstacle à la fertilité de la terre. Et lorsqu'il apprend que quelques provinces a souffert un dommage considérable, il lui remet le tribut qu'elle devait lui payer cette année-là et envoie du blé de ses greniers pour la nourriture de ce peuple et pour ensemencer les terres. Car, dans le temps de l'abondance, le roi achète une grande quantité de froment afin de subvenir aux provinces qui n'auront pas fait la récolte ordinaire. Le roi vend son blé à un prix 4 fois moindre que les marchands. De même, quand la peste a détruit les bestiaux, il remet le tribut de cette année-là et leur en donne d'autres à bon marché. Outre cela, pour que les voyageurs ou les courriers ne s'égarent point des chemins, il a fait planter des arbres d'espace en espace, en sorte qu'en suivant la route marquée par ces arbres, on ne saurait se tromper. Il est incroyable combien le roi nourrit de pauvres en toute l'année et combien de pain il fait distribuer du blé de ses greniers pour leur subsistance. Ce que je peux dire, c'est que le nombre des pauvres se monte environ à 30 000, à qui il fournit du pain tous les ans et qu'il n'en laisse manquer à personne. C'est pourquoi aussi les pauvres le regardent comme un dieu. Chapitre 25. De quelles boissons on use dans la province de Cathay à la place du vin? Ils font dans la province de Cathay une fort bonne boisson composée de riz et de plusieurs parfums, laquelle, par sa douceur, surpasse la bonté du vin. Et ceux qui en boivent trop ou qui n'ont pas la tête forte en sont plutôt enivrés que s'ils avaient bu du vin. Chapitre 26. Des pierres qui brûlent comme le bois. Par toute la province de Cathay, on tire des pierres noires des montagnes qui, étant mises au feu, brûle comme du bois. Et lorsqu'elles sont une fois allumées, elles gardent le feu pendant quelque temps, comme si, par exemple, on les allume le soir, elles durent jusqu'au lendemain. On use beaucoup de ces pierres, surtout dans les endroits où le bois est rare. Chapitre 27. De la rivière de Pulisachniz, de son pont magnifique. Nous avons marqué jusqu'à présent, en ce second livre, la situation, la grandeur et les négoces de la ville de Kambalu. Nous avons aussi fait la description de la magnificence, de la pompe et de la richesse du Grand Khan. L'ordre veut à présent que nous parcourions les pays voisins et que nous fassions mention, en peu de mots, de ce qui s'y trouve ou de ce que l'on fait de plus particulier. Le Grand Khan m'ayant donc envoyé, moi, Marco, dans les pays éloignés de son empire pour quelques affaires concernant son état, et qui m'ont retenu 4 mois en chemin, j'ai examiné toutes choses avec soin, soit en allant ou en revenant. Étant donc à 10 minutes de la ville de Kambalu, je trouvai une grande rivière, appelée Pulisachniz, Loukiou, qui se décharge dans l'océan et qui transporte beaucoup de navires marchands. Il y a sur cette rivière un pont de marbre très beau, long de 300 pas et large de 8, composé de 24 arcades ayant des lions, aussi de marbre, pour base du parapet, un à chaque extrémité. Chapitre 28. Des lieux au-delà de la rivière de Pulisachniz. Après avoir passé ce pont sur cette rivière et en allant 30 milles de suite, on trouve plusieurs châteaux et maisons magnifiques, de même que de beaux vignobles et des champs très fertiles. Après avoir fait ces 30 000, on vient à une ville nommée Jougi, Chiuchiu, qui est grande et belle, et où il y a plusieurs monastères consacrés aux idoles. On fait en cette ville de très bonnes et belles étoffes de soie et d'or et des toiles très fines. Il y a aussi beaucoup d'hôtellerie pour les étrangers et pour les voyageurs. Les habitants sont bons artisans et adonnés au négoce. Étant sorti de cette ville, on vient à un certain double chemin, dont l'un conduit par la province de Kate, ou chaîne septentrionale, et l'autre au pays de Mouji, chaîne méridionale, vers la mer. Sur celui qui conduit à la province de Kate, on trouve des châteaux, des villes, des vergers, des champs, qui sont peuplés de gens adonnés aux arts et aux négoces, et fort affables et d'un commerce de vie aisé. Chapitre 29. Du royaume de Tainfu. À 10 journées de la ville de Jougi, on vient au royaume de Tainfu, qui est grand et bien cultivé, car il y a beaucoup de vignes. Dans la province de Kate, on ne récolte point du tout de vin, mais on y emporte de ce royaume-ci. On y exerce beaucoup de sortes d'industries et d'arts, et c'est là où l'on fabrique toutes sortes d'armes pour le service du Grand Khan. De là, en allant vers l'Occident, on entre dans un pays fort agréable, orné de plusieurs villes et châteaux. Ce pays abonde en toutes sortes de marchandises. En sortant de là, on trouve, à 7 journées, une très grande ville nommée Pianfu, où il y a de la soie en abondance. Chapitre 30. Du château de Xinkui et de son roi pris par son ennemi. De la ville de Pianfu, Pingangfu, il y a 2 journées jusqu'à un château magnifique nommé Xinkui, qui a été bâti par un roi nommé le roi d'or et qui était ennemi du grand roi que l'on nomme vulgairement le grand prêtre Jean. Ce château est si fort par art et par nature que le roi d'or, qui y commandait, ne craignait pas le plus puissant roi. De quoi les seigneurs de son voisinage n'étaient pas fort contents parce qu'ils lui étaient comme soumis. Or, le grand prêtre Jean avait à sa cour 7 jeunes hommes fort courageux qui lui promirent avec serment de lui livrer le roi d'or. Il leur promit de grandes récompenses s'ils en venaient à bout. Ils s'en allèrent donc à la cour du roi d'or et lui offrirent leur service pour mieux couvrir leur dessein. Il les reçut à son service, comme de fidèles serviteurs, ne craignant rien, ou faisant mine de ne se point méfier d'eux. Or, 2 ans se passèrent sans qu'ils vissent jour à exécuter leur entreprise. Et comme le roi, au bout d'un si long temps, les regardait comme ses plus fidèles serviteurs, un jour, il sortit avec eux et quelques autres pour s'aller promener à 1 mille du château. Alors, les traîtres, profitant de l'occasion, mirent l'épée à la main et, s'étant saisis de lui, le menèrent au grand prêtre Jean pour s'acquitter de leur promesse. Celui-ci, ravi de le tenir entre ses mains, le fit bien surveiller et l'envoya garder les bêtes des champs. Et après l'avoir laissé pendant 2 ans dans cet esclavage, il le fit habiller en roi. Et, en cet équipage royal, le fit amener en sa présence et lui parla ainsi. « Vous avez présentement appris par expérience combien votre puissance était peu de chose puisque je vous ai fait prendre dans votre château et que je vous ai fait vivre depuis 2 ans avec les bêtes. Je pourrais à présent vous tuer si je voulais, et personne des mortels ne peut vous tirer de mes mains. » À quoi le roi captif répondit,
« Cela est vrai, il est ainsi. »
Alors le grand prêtre Jean lui dit, « Parce que vous vous êtes humilié devant moi et que vous vous êtes regardé comme rien auprès de moi, je veux à l'amener vous traiter en ami, et je suis content d'avoir pu vous tuer si j'avais voulu. » Et alors il lui fit donner des chevaux et des domestiques pour le ramener à son château. Depuis ce temps-là, il a porté honneur au grand prêtre Jean toute sa vie et il a obéi à tous ses commandements. Chapitre 31. De la grande rivière appelée Caro-Morane et du pays voisin. À 20 000 du château de Chinqui, on trouve la rivière Caro-Morane, ou fleuve jaune, sur laquelle il n'y a point de pont à cause qu'elle est trop large et trop profonde. Elle se décharge dans l'océan. Il y a plusieurs villes bâties le long de cette rivière dans lesquelles on exerce beaucoup de trafic. Ce pays abonde en gingembre, en soie et en oiseaux, surtout en faisan. Au-delà de cette rivière, et après 2 journées de chemin, on vient à la noble ville de Tianfu, où l'on fait de magnifiques étoffes de soie et d'or. Tous les habitants de ce pays-là et presque toute la province de Cathay sont idolâtres. Chapitre 32. De la ville de Kwenkinafu. À 8 journées de là, on trouve quantité de villes et de villages, des vergers et de très belles campagnes. La terre abonde en soie, aussi bien qu'en bêtes et en oiseaux pour la chasse. Que si vous allez encore 8 journées plus avant, vous trouverez la grande ville de Kwenkinafu, qui est la capitale d'un royaume qui porte le même nom, lequel fut autrefois fort riche et fort célèbre. C'est Mangala, un des fils du grand Khan, qui le gouverne aujourd'hui. Ce pays produit de la soie en abondance et toutes les choses nécessaires à la vie. On y exerce aussi plusieurs trafics. Les habitants sont idolâtres. Il y a, hors de la ville, un palais royal bâti dans une plaine dans lequel Mangala tient sa cour. Il y a encore au milieu de la ville une autre maison royale très magnifique dont les murailles sont dorées en dedans. Le roi passe son temps à la chasse avec ses courtisans et à prendre des oiseaux dont il a grande quantité en ce pays-là. Chapitre 33. De la province de Chunchi. En s'éloignant de cette ville et du palais, et après 3 journées de chemin, on va par une très belle plaine où il y a plusieurs villes et châteaux et qui est fort fertile en soie. Après cela, on vient dans un pays de montagnes où l'on trouve, tant sur les montagnes que dans les vallées, quantité de villes et de villages dépendant de la province de Chunchi. Les habitants sont idolâtres et adorent la terre. On fait aussi en ce pays-là la chasse aux lions, aux ours, aux cerfs, aux chevreaux, aux daims et autres semblables animaux. Ce pays peut avoir 20 journées de long et, comme nous avons dit, il est composé de montagnes, de vallées et de beaucoup de forêts. Mais il y a partout des hôtelleries pour les voyageurs. Chapitre 34 de la ville de Chalechmanji. Il y a une province qui est contiguë à celle dont nous venons de parler et qui s'appelle Chalechmanji, du côté de l'Occident. Elle est peuplée de villes et de châteaux. La ville capitale s'appelle Chalechmanji et elle est frontière de la province de Manji, Chine méridionale. Cette province a une plaine de 3 journées d'étendue, après quoi l'on trouve des montagnes, des vallées et des forêts. Le pays, qui peut avoir 20 journées de long, a beaucoup de villes et de villages. Quant au reste, elle ne diffère en rien de l'autre province, car il y a beaucoup d'artisans, de négociants et de laboureurs. Le pays est bon pour la chasse et toutes sortes d'animaux sauvages, entre lesquels on en trouve de ceux qui portent le musc. Il croît dans cette province du gingembre en quantité, de même que du riz et du blé. Chapitre 35 de la province de Sindinfu. Il y a encore une autre province frontière de la sudite province de Chunchi, nommée Sindinfu, qui touche aussi à celle de Manji. La ville principale s'appelle aussi Sindinfu, qui fut autrefois très grande et très riche. Elle peut avoir 20 000 de tours. Elle a eu aussi un roi très riche et très puissant, lequel, ayant laissé 3 fils pour lui succéder, ils partagèrent la ville en 3 parties, faisant ceindre chacun sa part de fortes murailles. Mais le grand Khan a réduit sous son obéissance et la ville et le royaume. Il passe une rivière nommée Qianfu, le fleuve Qian, par le milieu de cette ville. Cette rivière a 1/2 mille de largeur. Elle est fort profonde et fort poissonneuse. Il y a plusieurs villes et châteaux bâtis sur ses bords. Son cours s'étend à 90 journées de cette ville. Les vaisseaux chargés de différentes marchandises montent par cette rivière en grand nombre. Il y a dans la ville de Sindinfu un pont de pierre pour la traverser, qui est long de 1 mille et large de 8 pas. Et sur ce pont, l'on élève tous les matins des boutiques de toutes sortes de marchandises que l'on ôte le soir. Il y a aussi une maison bâtie sur ce pont où demeurent les officiers du roi pour recevoir un droit de tous ceux qui passent, de même que pour toutes sortes de denrées. En avançant 5 journées de cette ville, on passe par une plaine où il y a des villes, des châteaux et beaucoup de maisons de campagne. On trouve là aussi beaucoup d'animaux sauvages. Chapitre 36 de la province de Tibet. Après la plaine dont nous venons de parler, on vient à la province de Tibet, Tibet, que le grand Khan a assiégé et désolé. On en voit les restes par les débris de plusieurs villes et châteaux. Elle peut avoir 20 journées de long, et parce que ce n'est plus qu'une vaste solitude, n'y ayant presque plus d'habitants, il faut que les voyageurs portent leurs provisions en chemin pour 20 jours. Et après que les hommes l'ont eu abandonné, les bêtes féroces s'en sont emparées. Ce qui fait que les chemins sont fort dangereux, surtout la nuit. Mais les marchands et autres voyageurs ont inventé un remède contre ces dangers. Ils croient, en ce pays-là, de très grands roseaux de la longueur de 15 pas et épais de 3 paumes. D'un nœud à l'autre, il y a 3 paumes de distance. De sorte que quand les voyageurs veulent se reposer pendant la nuit, ils ramassent beaucoup de ces roseaux et y mettent le feu. D'abord qu'ils sentent le feu, ils font de grands éclats. Et cela fait un si grand bruit qu'on le peut entendre de quelques milles. Ce qui écarte les animaux qui ont peur du bruit et les empêche d'approcher. C'est ainsi que les voyageurs traversent en sûreté cette province. les chevaux et autres bêtes de charge que les marchands mènent en voyage sont aussi épouvantés du cliquetis de ces roseaux. Et plusieurs ont échappé à leur maître de la peur qu'ils ont eue et qui leur a fait prendre la fuite. Mais les plus avisés voyageurs leur lient les pieds de devant afin qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Chapitre 37. D'un autre pays de Tibet. Après 20 journées de chemin et après avoir traversé la province de Tibet, on rencontre plusieurs villes et maisons de campagne dans une autre province dont les habitants sont idolâtres et cruels, comptant pour rien de voler et de brigander. Ils vivent de la chasse et des fruits que la terre produit. On trouve aussi dans leur pays de ces animaux qui portent le musc, que l'on appelle gaderi. Les habitants vont à la chasse de ces animaux avec des chiens, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de musc. Ils ont une langue et une monnaie particulières. Ils sont habillés des peaux de bêtes qu'ils prennent ou de grosses bures. Ce pays est de la dépendance de la province de Tibet. Le terrain est montagneux. Il y a quelques endroits et quelques rivières où l'on trouve l'or. Ils se servent de corail pour monnaie, car cette pierre est fort estimée parmi eux. Les femmes en portent des colliers et en mettent aussi à leurs idoles comme quelque chose de beau. Il y a dans ce pays-là de très grands chiens, presque aussi hauts que des ânes, dont ils se servent à la chasse des bêtes sauvages. Ils ont aussi des faucons et autres oiseaux de rapine. Ils y croient beaucoup de cinnamone et autres aromates en quantité. Cette province est sous la domination du Grand Khan. Chapitre 38. De la province de Gyeongju. La province de Gyeongju est contiguë à celle de Tibet à l'Occident. Elle a un roi, mais il est tributaire du Grand Khan. Il y a un lac où se trouve une grande quantité de perles. Ce serait même un vil prix s'il était permis à tout le monde d'en prendre. C'est pourquoi il est défendu, sous peine de la vie, de pêcher des perles dans ce lac, sinon par la permission du Grand Khan. Il y a aussi dans cette province quantité de ces animaux nommés gaderi qui portent le musc. Ce lac, où l'on pêche des perles, est aussi abondant en poissons, et tout le pays est plein de bêtes sauvages comme lions, ours, cerfs, daims, lynx, chevreaux et toutes sortes d'oiseaux. Ils n'y croient point de vin, mais ils font à la place une boisson très bonne des grains de diverses sortes. On trouve là en quantité du girofle que l'on cueille des arbres, qui ont de petites branches et la fleur blanche, dont le bout rapporte une grande quantité de ses clous. Enfin, il y croit du gingembre en abondance, des cinnamones et autres sortes de bois de senteur que l'on ne trouve point chez nous. On trouve aussi dans les montagnes de ce pays-là des pierres nommées turquoises qui sont fort belles, mais qu'il n'est pas permis de transporter hors du pays. Les habitants de ce pays-là sont idolâtres. Leur monnaie principale consiste en grains d'or qui valent suivant leur poids. Ils ont une plus petite monnaie qu'ils font de la manière suivante. Ils cuisent dans une chaudière de sel qui devient une espèce de pâte qu'ils coulent dans un moule et dont ils font de la monnaie. Après avoir quitté cette province, on rencontre, au bout de 10 journées de chemin, des châteaux et des villages en grand nombre dont les habitants ont les mêmes coutumes que la province de Kaniklou, et enfin, l'on vient à une rivière nommée Brius qui sert de borne à la province de Kaniklou. On trouve dans cette rivière de l'or en abondance et il croît sur ses bords du cinnamone en quantité. Chapitre 39. De la ville de Karaiyam. Après avoir traversé la rivière de Brius, on vient à la province de Karaiyam, dans le Yunnan, qui contient 7 royaumes. Elle est sujette au Grand Khan, dont un fils nommé Ezen Temur était gouverneur de mon temps. Les habitants sont idolâtres. Le pays nourrit de très bons chevaux. Ils ont une langue particulière et difficile. La ville capitale s'appelle Jassy, Likiamfu, qui est une ville considérable où l'on fait beaucoup de trafic. Il y a quelques chrétiens nestoriens et plusieurs mahométans. Ils ont du blé et du riz en abondance, quoiqu'ils ne fassent pas leur pain de blé parce qu'ils ne sauraient le digérer à cause de la faiblesse de leur estomac, mais ils font leur pain de riz. Ils font aussi de plusieurs sortes de grains et leurs boissons qui les enivrent plus facilement que le vin ne pourrait faire. Ils se servent pour monnaie de certaines coquilles d'or et blanches que l'on trouve dans la mer. On tire en cette ville beaucoup de sel de l'eau des puits dont le roi obtient un grand profit. Il y a aussi un lac fort poissonneux qui a bien 100 000 de circonférence. Les hommes mangent la chair crue, mais préparée comme nous allons dire. Premièrement, ils la mortifient, et ensuite, ils y mettent d'odoriférantes et excellentes huiles de diverses espèces très bonnes, et après cela, ils la mangent. Chapitre 40. D'un pays situé dans la province de Karayam, où il y a de très grands serpents. En s'éloignant de la ville de Jassy, on vient, après 10 journées de chemin, au royaume dont la ville capitale s'appelle Karayam, Toulifou, et où commande Kourgrakam, fils de l'empereur Kubilai. Tout le pays tire son nom de cette ville. Les rivières de ce pays-là produisent beaucoup d'or. On trouve aussi dans les marais et dans les montagnes de l'or, mais d'une autre espèce. Les habitants sont idolâtres. On trouve en ce pays-là de très grands serpents dont il y en a de 10 pas de long et gros de 10 paumes. Leur tête est fort grosse. Ils ont de grands yeux et larges comme 2 pains. Ils ont la gueule si grande qu'ils peuvent engloutir un homme d'un seul coup, quelque grand qu'il soit. Ils ont aussi de grandes dents bien aiguës qui leur sont d'un grand usage. Il n'y a ni aucun homme, ni aucun autre animal qui ose approcher, ni même regarder ces serpents. On les prend de cette manière. Ce serpent a coutume de se retirer quelquefois dans des cavernes souterraines ou autres retraites dans les montagnes. Il sort pendant la nuit et va parcourir la demeure des autres animaux, cherchant à en faire sa pâture, car il ne craint aucune sorte d'animaux. Il mange les grands et les petits, même les lions et les ours. Et quand il est repu, il retourne à sa caverne. Et comme le terrain est fort sablonneux, c'est une chose admirable de voir la profondeur des vestiges de cet animal. On dirait que c'est un muide de vin qu'on aurait coulé sur le sable. De sorte que les chasseurs, pour lui tendre des pièges, dressent des pieux ferrés par le bout qui cachent sous le sable en sorte que la bête ne saurait les apercevoir. Et ils en mettent en grand nombre, surtout autour de la retraite de la bête. Et quand, la nuit, elle vient à sortir selon sa coutume pour chercher à repaître et qu'en marchant elle enfonce sur ce sable mouvant, il arrive souvent qu'elle donne du ventre dans ses pointes de fer attachées aux pieux dont nous avons parlé et qu'elle se tue de cette manière, ou du moins qu'elle se blesse mortellement. Et alors, les chasseurs qui sont cachés accourent pour achever de tuer la bête, si elle vit encore. Ils en tirent le fiel, qu'ils vendent fort cher, car il est fort médicinal. Car quiconque aurait été mordu d'un chien enragé, s'il en boit la pesanteur de Denis, il est d'abord guéri. On mange la chair de ce serpent, et les hommes en sont fort friands. Il y a aussi dans cette province d'excellents chevaux, que les marchands achètent pour les mener dans l'Inde. Les gens du pays ont coutume d'ôter aux chevaux 2 ou 3 os de la queue afin qu'ils ne puissent pas en courant la remuer çà et là, ce qu'ils trouvent de mauvaise grâce. Ils se servent à la guerre de cuirasses et de boucliers faits de cuir de buffle, de flèches et de lances. Et avant que le grand khan eût réduit ses provinces sous sa domination, il y avait une détestable coutume que quand quelque étranger de bonnes mœurs, prudent et honnête, venait loger chez eux, ils le tuaient pendant la nuit s'imagina que ses bonnes mœurs, sa prudence, son honnêteté, en un mot, l'âme de cet homme, demeuraient dans la maison. Et cette perfidie, ou ignorance, a fait que plusieurs voyageurs ont été tués en cet endroit. Mais le grand khan, ayant soumis ce royaume à sa domination, a détruit cette impiété et cette folie.